Nous sommes le jeudi 21 février 2019, il est 13h21 à Paris, une heure de moins en temps universel. C'est l'heure de votre émission, voici le journal des auditeurs.
Le journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans le JDA, nous parlons du rôle des fondations d'entreprises dans le soutien à la culture africaine. La fondation Orange lance son premier prix en soutien à la production littéraire africaine. Le lauréat recevra une dotation de 10 000 euros et bénéficiera d'une campagne de promotion de son ouvrage. Ce prix s'inscrit dans les ambitions de la fondation Orange qui a fait de la culture l'un des actes de son mécénat. Alors qu'en pensez-vous ? Nous en parlerons avec Françoise Cosson, elle est directrice de la fondation Orange. Pour participer à l'émission, posez vos questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00, c'est le numéro si vous êtes en France et si vous nous écoutez depuis partout ailleurs dans le monde, composez le 00 33 1 55 07 58 00. Mais avant cela, un tour du côté du répondeur pour écouter une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour, je suis Monsieur Diao, je suis sénégalais. Et j'habite plus de 22 ans en France et je voulais juste vous signaler que les élections au Sénégal, c'est organisé par le gouvernement qui est là-bas, qui est sur place. Et c'est ce qui n'est pas normal. Et je viens de signaler aussi qu'il y a une fraude massive que le gouvernement est en train de faire, y compris au consulat du Sénégal même, pour nous reprendre les pièces d'identité, nos originaux, et pour nous donner des duplicata. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces duplicata, ces originaux? Je ne sais pas. Il y a juste un feutre qui est tracé sur la pièce d'identité, et c'est tout. Au moins, ça aurait été un petit ciseau qui est sur place disponible pour le couper en deux. Mais c'est massivement organisé, ces élections, ces fraudes au Sénégal. Voilà, je tiens à le signaler ici, sur Africa numéro 1, que le message soit passé et que les gens puissent savoir que voilà, il y a une fraude massive que le gouvernement du Sénégal est en train de faire pour l'encontre des autres candidats. Voilà, exactement. Voilà, merci. Merci de m'avoir laissé cette opportunité. Merci bien.
Hey, bonjour, Africa numéro 1. Moi, je m'adresse à notre président Ibeka. Monsieur Ibeka, vous êtes élu pour le problème du Nord. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien à régler. Surtout les Kidal qui sont en train de foutre la gueule de tous les Maliens, qui veulent créer un autre pays, dans notre pays. Vraiment, il faut nous dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe avec les gens-là qui veulent créer une loi qui n'est pas une loi de notre constitution du Mali. Mali, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque. Il dit on ne boit pas l'alcool, on ne fait pas. Chacun a pour soi dans ce monde-là. Quand tu meurs, le problème, tu vas trouver là-bas avec Dieu. Ça ne les concerne pas. Il faut dire la vérité à ces gens-là. Notre pays, ce n'est pas un pays de marionnettes. Il est en train de foutre une gueule. Ça, c'est quoi maintenant? Même vous, vous ne pouvez pas aller à Kidal. Personne ne peut aller à Kidal. Kidal demande une autorisation de papier, un autre papier, comme quoi que tu rentres dans Kidal. Mais c'est quoi ce territoire-là? Allez, salut. Bonne journée à l'Africain numéro 1.
Bonjour, Julien. Bonjour, madame la journaliste. C'est M. Diaby qui a l'appareil. Madame, je voulais intervenir parce que cet après-midi, là, il y avait un débat sur la Côte d'Ivoire. J'ai cherché à rejoindre et je n'ai pas eu la ligne. Bon, madame, bref. Je voulais intervenir au cas de Soro Guillaume. Madame, Soro, c'est fini pour lui. Soro même sait que c'est fini pour lui. Depuis Soro, dans sa vie, il n'a jamais souffri. Il n'a jamais souffri dans la vie. Et maintenant, il a pris les armes, au moins pour combattre quelque chose. Le combat était atteint. Vraiment. Moi, c'est un jeune homme que je l'ai aimé beaucoup. Je me disais, s'il restait à côté de Ouattara, il allait apprendre beaucoup de choses. Là, comment il est pressé, il est parti. Il prenait que Ouattara est pareil comme Gbagbo. Non, Ouattara n'est pas comme Gbagbo. Je le dis, parce que au départ de Soro, je vous dis une chose. Il voulait que Ouattara n'a qu'à le désigner comme être président de RDR. Il sera président de la République de 2020. Non, Ouattara a déjà désigné Kabla Dinkan. Allez, monsieur Ouattara. Salut.
Chers amis de l'auditeur Africa numéro 1, je viens juste d'écouter les pensées de Fatou Birama Et je voudrais déjà saluer son courage d'avoir eu ce culot, c'est même pas un culot, la responsabilité de poser le problème. Parce que moi aussi, je suis agacé. Voilà, il faut dire, il faut appeler un chat un chat. Je suis agacé. Est-ce seulement quand une communauté, en l'occurrence les Juifs, sont insultés ou on va dire maltraités, entre guillemets, qu'il faut se rassembler? Ou est-ce quand une personne est insultée et maltraitée? Parce que cette marche-là, pour moi, c'est... Je ne dirais pas qu'elle n'a pas lieu d'être. Elle a lieu d'être, au contraire, il faut le faire. Mais est-ce que le racisme a une couleur? Est-ce que le racisme est destiné à une seule communauté? Voilà. Bonne journée. Au revoir.
Bonjour, Africa numéro 1. Bonjour, ami Jidea. Bonjour, peuple africain. Je suis Denise Yakazamba. Je suis de la Centrafrique. Je parle aujourd'hui pour la Centrafrique sur la situation de notre pays, que il y avait un accord qui a été signé au niveau de Khartoum. Tout le peuple africain connaît la crise qui a connu la RCA. Cet accord nous a demandé de changer le gouvernement et faire un gouvernement de large ouverture. Donc, changer le Premier ministre, changer le gouvernement. Voilà maintenant, ça fait 2 semaines, le Premier ministre qui est Simplice Mathieu Sarrandi, qui ne veut pas démissionner, qui refuse de démissionner, qui se permet de rester au niveau de la primature et insiste que si il démissionne, le chef de l'État sera assassiné. Et je ne sais pas dans quel pays on a vu ça. Je vous remercie.
Oui, allô, bonjour, chers auditeurs, auditrices, Africa numéro 1. Bonjour, Madame Atouman. J'espère que mon message sera diffusé pour que tous les compatriotes africains qui vivent en France, en Europe, puissent entendre. Le colère que j'ai aujourd'hui, c'est contre à tout ce qui s'en prend aux ambassades, consuls, si en France ou en Europe, parce qu'il y a un problème au pays. D'accord, il y a un problème au pays. Je ne suis pas d'accord. Tout le gouvernement en Afrique qui tire avec des balles réelles sur sa population, je le condamne avec la dernière rigueur de mes forces. Mais je ne suis pas d'accord non plus à des compatriotes qui vont aller saccager les ambassades, les consuls. Vraiment, c'est la honte d'entendre dans la bouche des opposants qu'on pense qu'ils vont gouverner le Sénégal demain, qui est les partisans de Karim Wade et Boubacar Sall. C'est pas normal de les encourager cet acte. À bon entendeur, salut. Je suis en colère, vraiment en colère. Hein.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en composant le 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, le soutien des fondations d'entreprises à la culture africaine. Nous en parlons à l'occasion du lancement du premier prix Orange du livre en Afrique. Et pour en parler, nous recevons Françoise Cosson, directrice de la fondation Orange. Françoise Cosson, bonjour. On ne vous a pas entendu.
Bonjour.
Bonjour, merci. Ce n'était pas de votre faute, je vous rassure. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Alors, la Fondation Orange a annoncé fin octobre le prix Orange du livre en Afrique qui vise à récompenser un roman écrit en langue française par un écrivain africain. Pourquoi avoir décidé de lancer un prix? Quel est l'objectif en lançant un prix littéraire?
Alors, je vais peut-être positionner un petit peu la Fondation et les actions qu'on a sur le territoire africain. La Fondation est engagée dans des projets dans 18 pays africains à peu près, surtout dans le domaine de la santé, de l'éducation. Voilà, donc on est très connus et on est très actifs sur ce territoire. Et on accompagnait la culture sur le territoire français avec le prix Orange du Livre en France et puis aussi avec le soutien au festival de musique. On accompagne à peu près une trentaine de festivals tous les ans en France. Et il y avait cette volonté, on a de réconcilier un peu nos territoires d'action avec nos territoires géographiques. Donc la première idée qu'on a eue, c'est effectivement de se dire que la littérature, on était légitime depuis 10 ans avec ce prix Orange des livres en France, on pouvait lancer cette initiative dans nos pays. Alors pas que dans nos pays dans lesquels on est présent, on est présent à peu près dans 18 pays en Afrique, mais sur le continent africain. Donc quand on parle d'Afrique, hein, c'est Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Donc on a eu cette idée effectivement à la fin de l'été, et ça s'est très vite concrétisé. On pensait peut-être pas le lancer en 2019, mais ça s'est accéléré. On a eu un très bon accueil dans nos pays et dans l'édition en fait et dans tous nos partenaires que l'on avait. Et voilà. Et donc ce prix a vu le jour et va voir le jour concrètement en 2019. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment d'accompagner la création, les auteurs sur le territoire africain, et puis d'aider et de soutenir l'édition africaine. Donc c'est vraiment le premier objectif.
Alors justement, hein, donc il faut que le roman, hein, pour ce prix qui va être donné entre avril et fin mai, je donnerai tout à l'heure la liste des finalistes, il faut que ce roman ait été écrit entre le 1er janvier 2017 et le 30 octobre 2018 et édité surtout par une maison d'édition basée sur le continent. On connaît, hein, les difficultés d'édition en Afrique. Est-ce que ça a été difficile de sélectionner des ouvrages de...
Alors, on pensait que ce serait difficile et qu'on n'aurait pas forcément beaucoup de livres au début et de maisons d'édition qui nous suivraient pour cette première édition. Et finalement, avec il y a eu vraiment un engouement. On a eu, on a des relais dans tous les pays, hein, puisque la fondation est présente dans tous les pays. On a eu un vrai relais en local et on a eu 39 maisons d'édition qui ont répondu présentes, avec 59 ouvrages qui nous ont été envoyés. Donc ça, je dirais que ça n'a pas été tellement difficile. Voilà, on a eu beaucoup de livres, voilà, parce qu'il fallait arriver à une sélection de 6 finalistes sur un départ de 59 livres. Alors on a eu un comité, on peut peut-être en parler, on a eu des comités de sélection dans 5 pays.
D'accord, en plus du membre du jury, c'est bien
voilà,
ça.
Voilà, donc on a des comités de sélection qui ont remonté 6 livres chacun, donc c'est 5 comités de sélection, et le jury maintenant va avoir à élire donc, le lauréat parmi ces 6 finalistes.
Et les comités de sélection étaient composés de qui, par exemple de,
alors d'auteurs, de libraires, mais qui étaient... Et puis de gens de la fondation aussi dans les pays.
D'accord.
Voilà, donc ces comités de sélection étaient vraiment des comités de sélection locaux qui ont remonté en fait leur choix de livres.
Alors, on va donner les finalistes quand même. Les 6 finalistes sont Jaili Amadou Amal Mounial pour son livre Les larmes de la patience aux éditions Proximité. C'est un éditeur camerounais. Ralil Diallo, à l'orée du trépas, paru chez Harmattan Sénégal. Youssouf Amine El Alami, même pas mort, édition Le Fennec, c'est un Marocain. Et Pierre Kouassi Kanganou, La rue 71, paru chez Eburni, c'est une maison d'édition ivoirienne, bien sûr. Salima Louafa, Cher d'Argile, Afrique-Orient, ça vient du Maroc. Et enfin, Yamen Manaï, Lama Ardent, édition Elizade. De Tunisie. Et le Maghreb est bien représenté. Hein. Oui. J'étais en train de me dire ça en lisant le texte.
Oui, il y a trois livres du Maghreb et puis trois d'Afrique subsaharienne. Donc on a un équilibre quand même, effectivement. C'est ce qu'on voulait aussi, nous, parce qu'on est présents effectivement sur les territoires aussi en Afrique du Nord. Voilà.
Bien sûr. Ouais. Alors justement, le lauréat, donc, je le disais tout à l'heure, hein, recevra une dotation de 10 000 euros et bénéficiera d'une campagne de promotion de son ouvrage. En quoi consistera cette promotion globalement? Est-ce que vous allez l'aider à le distribuer? Est-ce qu'il y a aussi peut-être des difficultés de distribution parfois? Est-ce que ça...
Alors, c'est vrai qu'il y a des difficultés de distribution. Alors moi, je ne suis pas une spécialiste de la littérature en Afrique et puis non plus du système de diffusion, mais c'est vrai qu'on a noté quand même, on a pointé cette difficulté qu'avaient les maisons d'édition, qu'avaient les auteurs. Donc l'accompagnement, c'est aussi notre visibilité en France. Donc c'est cette visibilité qu'on va pouvoir porter en France, mais c'est aussi dans les territoires, parce qu'on est très présent avec Orange dans les territoires en Afrique. Donc on va aussi promouvoir, alors déjà on va le promouvoir en interne, parce qu'on a quand même, les salariés, on a quand même 18 000 salariés d'Orange sur cette zone, enfin, en Afrique. Donc ça va être aussi une promotion interne, une promotion externe dans tous les événements qu'on va pouvoir porter. Voilà, et puis au Salon du Livre, au Pavillon des Arts Africains, on sera sans doute présent aussi.
En fait, avec... le prix avec, en partenariat avec l'Agence Culturelle Africaine, la CAF, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Qui est à l'initiative d'ailleurs du pavillon, souvent des lettres d'Afrique.
Voilà, donc au Salon du Livre, on sera présent et on va essayer de faire venir effectivement ces 6 finalistes pour les mettre en visibilité dès le Salon du Livre à Paris.
C'est très clair. Alors, Salon du Livre, c'est au mois de mars, avril.
Avril. 15 mars, pardon, 15 mars.
15 mars.
C'est, alors, c'est très proche.
Voilà, et le prix, hein, voilà, sera décerné. Le prix Orange du Livre en Afrique sera décerné entre avril et fin mai. Sera décerné dans une capitale africaine. Vous avez déjà une idée de la ville?
Alors, je peux vous le dire. On a décidé hier de cette ville. Donc, ce sera à Yaoundé et ce sera au Cameroun. Alors, on n'a pas encore la date. On est en train de caler la date. Mais voilà, on est ravis que ce soit le Cameroun qui nous accueille pour cette remise de prix.
Et pourquoi spécialement le Cameroun?
Alors pourquoi le Cameroun? Parce qu'il y avait, un engouement du pays. Alors on a un peu sollicité les pays sur un projet aussi, parce qu'on voulait qu'il y ait une couverture, qu'il y ait une mise en valeur des auteurs et puis du finaliste. Alors le Cameroun avait un bon dossier. Ce sera aussi les 10 ans de la Fondation Orange au Cameroun. Donc c'est aussi pour nous une belle opportunité d'associer tous nos partenaires et tous les gens qui soutiennent la Fondation à ce bel événement.
Alors à côté du soutien à la production littéraire, vous l'avez dit déjà, la Fondation Orange soutient également la musique. Alors vous avez parlé de la France où vous soutenez une trentaine de festivals. Et donc vous avez lancé un appel à projet pour soutenir des festivals, mais cette fois en Afrique et au Moyen-Orient. Quel est l'objectif? C'est de reprendre ce que vous faites déjà en France et de le transposer pareil dans une...
Voilà,
dans cette zone géographique.
En fait, ça va vraiment aussi dans cet objectif et dans cette ambition de soutenir la culture et cet accès à la culture pour tous et de nous ouvrir à nos territoires. Donc vraiment, encore une fois, ça fait longtemps qu'on accompagne la musique en France, ça fait à peu près 30 ans. On n'avait rien fait sur l'Afrique, donc on s'est dit, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de le faire. On fait le prix Orange du Livre en Afrique, on peut soutenir, il y a de très beaux festivals de musique en Afrique. Donc cette année, on accompagnera 11 festivals sur le territoire africain. Donc on est ravis, c'est une première édition encore, c'est encore une première. On va voir comment ça prend, comment on participe, comment on contribue et comment notre soutien va être accompagné dans les années à venir. Mais en tout cas, c'est une initiative qui me tenait moi vraiment à cœur d'ouvrir en tout cas à ces territoires notre accompagnement et notre soutien culturel.
Pourquoi avoir choisi des festivals? Alors bon, il y avait déjà l'idée en France plutôt que des artistes.
Alors on soutient aussi quelques artistes en France, donc c'est aussi, je crois que la première édition ce sont des festivals. On va aussi aller détecter des artistes, on va créer des liens avec des festivals. Et ensuite, l'idée, c'est effectivement d'accompagner peut-être des artistes. Et puis, alors moi, j'aime bien aussi cette idée de pouvoir faire partager quand même ce qu'on a fait en France avec, créer des passerelles avec les festivals qu'on peut avoir en France et qu'on aura en Afrique. Donc, pourquoi pas faire venir de jeunes artistes français dans les festivals africains et puis l'inverse. Alors, avec toutes les problématiques que ça peut poser, on le sait, mais on essaiera de lever toutes ces difficultés pour pouvoir partager aussi entre festivals français et festivals sur le territoire africain.
C'est pas toujours évident quand on pense à Orange, qu'on associe Orange avec la promotion de la culture finalement, parce que voilà, à la base Orange reste un opérateur de télécommunication. Mais est-ce que finalement le numérique n'a pas donné un autre visage aussi à la culture? Parce que Orange aime bien rappeler, en tout cas dans la Fondation, vous rappelez souvent dans vos documents que le numérique fait partie de vos cœurs de métier. Est-ce que le numérique a aussi révolutionné le domaine de la culture? Sans doute, et en tout cas facilité l'accès à la culture.
Ouais. Alors nous, c'est vrai que le numérique, avant de l'utiliser pour l'accès à la culture, c'est pour nous un véritable outil d'égalité des chances. Donc on l'utilise énormément dans l'éducation, on l'utilise aussi dans la santé. On a créé des écoles numériques, on en a plus de 500 en Afrique. On a créé des maisons digitales pour la formation des femmes via le numérique. Et on a créé des Fab Labs solidaires, on en a 88 dans le monde, beaucoup en Afrique. Donc c'est toujours utiliser le numérique, le digital, pour redonner confiance, pour développer les compétences, pour retrouver une confiance en soi, mais aussi un accès à l'emploi. Donc ça, c'est vraiment important. Et dans la culture, du coup, on a aussi utilisé ce numérique, notamment en France, via les MOOC. On a une plateforme de MOOC. On a lancé 9...
Alors, des MOOC, du grand public, qu'est-ce qu'un MOOC? C'est un cours en ligne, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est un cours en ligne qui permet à des gens qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les expos, dans les musées, d'aller à des cours et de se déplacer, de pouvoir avoir en ligne cet accès au savoir, cet accès à la culture. Donc, on en a créé 9. Aujourd'hui, on a changé un peu la gouvernance sur ces MOOC puisqu'on a lancé un appel à projet. Donc, ce sont maintenant les institutions culturelles qui nous proposent des projets qu'on accompagne. Donc, on va en accompagner 4 nouveaux cette année. Donc là, le numérique, on voit bien que ça a un impact très important et puis c'est une ouverture à tous à la culture. Après, on a aussi lancé d'autres expérimentations, comme des visites à distance avec des musées, le Louvre-Lens par exemple. Alors là, je vous parlerai plus du territoire en France parce qu'on a fait des expérimentations en France. On a lancé des expérimentations aussi VR, d'exposition, de réalité virtuelle. Voilà, excusez-moi. Et voilà, donc il y a vraiment cette volonté d'utiliser le numérique pour donner encore plus accès. Moi, ce que j'ai envie de faire aussi au sein de la Fondation, ça fait peu de temps, ça fait 8 mois que je suis arrivée à la Fondation, et le culturel est arrivé au sein de la Fondation il y a aussi à peu près 1 an. Donc c'est vraiment de réconcilier aussi ces publics de bénéficiaires qui sont des personnes souvent dans des parcours un peu chaotiques, un peu chahutés, de les réconcilier aussi avec un accès à la culture qu'ils n'avaient pas. Donc ces femmes des maisons digitales, ces jeunes des Fab Labs, ces jeunes dans les maisons dans les écoles numériques, de leur donner un accès à la culture. Donc là, on a aussi signé un partenariat avec la Villette sur les microfolies. Donc c'est vraiment des accès avec, là c'est du tout numérique, hein, puisque c'est toute une salle numérique, une salle multimédia. Donc faire venir ces populations dans ces espaces pour leur donner accès à des œuvres, à un auteur, voilà, à différents sujets, et pourquoi pas aussi prolonger l'aventure jusqu'à une exposition. C'est aussi le but, c'est de les faire venir dans les musées, pour les faire venir dans les expositions.
Alors justement, je vais poser la question, j'avais formulé la question un peu plus longuement, mais je vais aller droit au but. On entend le côté philanthropique, finalement, des fondations, tout ça. Mais après, on se doute bien, puisque vous-même, hein, au début de cette émission, on parlait reconnecter les territoires d'action avec les territoires où Orange est implanté. Est-ce que, finalement, aussi, cette fondation ne vise pas à faire la promotion d'Orange, tout simplement voilà, est-ce que c'est ça le deal quand dirige une fondation?
Non, il y a pas de deal particulier. Et d'ailleurs, souvent, on ne connaît pas les territoires d'action de la fondation. On connaît en France, on connaît la fondation pour l'autisme parce qu'on accompagne l'autisme depuis 30 ans. On le connaît aussi pour la musique parce qu'on l'accompagne depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on est moins visible sur des thèmes comme l'inclusion numérique, alors qu'on fait énormément sur l'inclusion numérique. Aujourd'hui, je pense qu'on a aussi une responsabilité en tant qu'opérateur à être engagé socialement, à regarder ce qui se passe autour de nous, dans notre société. Et c'est vrai qu'on en parle un peu plus. C'est vrai qu'on fait des actions et qu'on communique un peu dessus. Donc on est en lien avec le secrétariat d'État au numérique pour contribuer à l'inclusion numérique en France. On est en lien avec les pôles emploi, avec les missions locales. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est un acteur finalement de cette inclusion et on en parle. Alors après, avec le lien avec l'opérateur, certainement, d'abord, il y a une fierté d'appartenance en interne. Pour les salariés, c'est une vraie fierté que l'entreprise soit engagée. Et puis, c'est aussi, on le voit de plus en plus dans les études, dans les baromètres, que les clients, nos clients, cherchent aussi des entreprises qui soient engagées, qui socialement regardent ce qui se passe autour d'elles et s'engagent avec une responsabilité. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est aussi... je pense que ça deviendra un critère de choix, pour les consommateurs. Donc, il n'y a pas de lien direct et il n'y a pas de deal établi. Mais en tout cas, je pense que cette responsabilité portée par l'opérateur... elle doit être visible et on ne doit pas avoir de complexe de la faire, en tout cas.
Ça peut accompagner la stratégie.
Ça accompagne la stratégie. Et puis, c'est vrai qu'en Afrique, c'est aussi important parce que... Alors là, on est très en lien avec les filiales, parce que c'est vrai que quand on va ouvrir un village Orange, alors un village dans un pays africain, c'est l'accès à l'eau, l'accès à un centre de santé et une école. Hein, c'est trois volets. C'est vrai que c'est très important pour l'économie, pour les bénéficiaires, et c'est vrai que la filiale va nous aider à le monter. Nos salariés vont nous aider à le monter, mais la filiale va... Donc il y a un lien, forcément il y a un lien, mais il n'y a pas de deal.
Les auditeurs nous appellent au 01 55 07 58 00. Est-ce qu'on va écouter Ousmane ? On va écouter Ousmane. Ousmane, bonjour. Ah, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Bonjour Ousmane.
Bonjour madame, bonjour à votre invité.
Bonjour.
Je voulais dire que Orange, à force de comme il y a un adage qui trop embrasse mal étreint, ne risque-t-elle pas de perdre beaucoup dans certains domaines?
C'est-à-dire, vous pensez à quoi?
C'est pas, elle est dans la téléphonie, elle est dans le cinéma, dans le numérique, le théâtre, tout ça. ne risque-t-elle pas d'avoir les pertes quelque part?
Elle, merci Ousmane, merci beaucoup Ousmane de votre question. Oui, finalement, ce que dit Ousmane, c'est que finalement, Orange semble s'éparpiller voilà, en voulant toucher à tout. On fait bien la différence entre Orange l'entreprise et la fondation.
Et Orange, Orange la fondation. Oui,
voilà,
oui.
Donc, quand tu es ici, la fondation.
Voilà, donc c'est vrai que Orange, l'opérateur Orange, il est sur son métier, hein, il est sur le réseau, la connectivité, effectivement la téléphonie. Et puis avec, on est un opérateur maintenant convergent, donc forcément avec, on associe des services, on est dans la banque, en Afrique on est très présent avec Orange Money, mais c'est aussi un service demandé par nos clients, et très plébiscité d'ailleurs. Maintenant sur la fondation, c'est vrai qu'on a, des territoires d'action assez, on en a beaucoup, c'est vrai.
Vous disiez tout à l'heure, après finalement, c'est le numérique qui fait le tout aussi.
Il y a un lien avec le numérique. Alors, c'est vrai qu'avec la culture, sur les festivals, on a plus de mal à trouver le numérique. Mais c'est vrai que je pense que nous, on pense aux bénéficiaires. C'est-à-dire que quand on pense aider, accompagner nos bénéficiaires, et ben c'est ça. C'est la santé, c'est l'éducation, c'est la culture. Et puis nous, si on peut le faire avec le numérique, et ben c'est aussi c'est ce qu'on fait de mieux et de bien, parce qu'on voit que ça facilite quand même l'accès à l'éducation et à la culture. Mais je pense pas qu'on se, alors je pense pas qu'on se, qu'on s'éparpille. On essaye de se recentrer en tout cas sur nos activités. Voilà.
Il y a trois axes. On parle beaucoup de la culture, parce que c'était un peu le but. On parlait un peu de la promotion, hein, la valorisation des cultures africaines. Mais je crois qu'il y a trois axes, hein, globalement, sur lesquels la fondation agit. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'éducation, la santé. Et la culture.
Donc l'éducation, je vous en ai parlé, donc c'est les jeunes et les femmes, donc les jeunes avec des programmes d'insertion et d'inclusion
c'est
numérique.
Ici en France, hein, on est bien d'accord.
À l'international. D'accord. La fondation est présente dans 30 pays à l'international, et en Afrique dans 18 pays. Donc dans tous ces pays, on déploie tous nos programmes. Donc des maisons digitales pour l'accompagnement des femmes, des Fab Labs solidaires pour les jeunes.
Alors des Fab Labs aussi, des Fab Labs, laboratoires de fabrication.
Voilà, des espaces d'innovation, de conception, de création. Voilà. En tout cas, c'est des espaces tels que nous on l'entend au sein de la fondation. C'est vraiment donner l'opportunité et la chance à des jeunes qui n'auraient jamais la chance d'ouvrir une porte d'un Fab Lab traditionnel, de pouvoir aussi avoir cet espace de création et de co-construction de projets innovants. Et on a de très belles histoires à raconter, hein, des jeunes qui n'avaient aucun diplôme, aucune formation, qui étaient vraiment dans des parcours un peu compliqués de vie, qui ont repris confiance en eux, ont appris à servir qui d'une imprimante 3D, qui d'une fraiseuse, et ont monté des projets. Donc chaque année, on a un challenge international. Hein. Cette année, c'était il y a un mois. On a fait venir 16 équipes de nos Fab Labs solidaires de 16 pays différents. Et ces jeunes qui n'avaient, il y a un an, jamais eu accès au numérique et à l'innovation, nous ont proposé des projets totalement innovants, complètement bluffants, et avec un discours tout à fait à l'aise. Et on voit qu'ils avaient repris confiance en eux, qu'ils étaient complètement intégrés à cet écosystème, en tout cas numérique et digital.
Alors, je crois qu'il y a un concours entre Fab Lab, non ?
C'est ça, c'est ce challenge international dont je vous parlais, qui a eu lieu il y a un mois, la finale, voilà, avec nos 16 finalistes, 16 équipes finalistes.
Voilà. Et parmi les produits, les innovations, hein, il y avait un lavabo intelligent ou encore un sac à dos solaire.
Sac à dos solaire, voilà. Donc l'idée vient du Fab Lab. Donc ces jeunes ne travaillent pas tout seuls, hein, ils sont accompagnés par des Fab Lab managers, par des concepteurs, par des créateurs qui viennent les aider, qui les accompagnent. Mais au final, ils portent ces innovations. Et lors de cette récompense et de cette finale, ce sont ces jeunes-là qui nous ont raconté leur projet, qui nous ont raconté leur histoire. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, c'est des espaces de lieux importants, c'est des espaces d'insertion professionnelle, bien évidemment, mais aussi d'insertion sociale. Et ça, je tiens à le dire, c'est pareil dans les maisons digitales. Les maisons digitales que l'on a, on accompagne des femmes, pareil, souvent sans emploi, à des formations. Alors ça peut être des formations de base, apprendre à lire, à compter, mais c'est aussi des formations pour créer des entreprises, donc autant d'entrepreneuriat. On a beaucoup d'exemples de jeunes femmes en Afrique qui ont créé, j'ai l'exemple au Mali d'une petite entreprise de fabrication de manioc, de transformation de fabrication de savon aussi. Donc là, les femmes se constituent en association, ça fait vivre à chaque fois de 5 à 10 femmes. Donc voilà, donc on voit que c'est des femmes qui ont retrouvé une employabilité, un lien social avec d'autres femmes, et puis un revenu pour la maison. Donc c'est aussi très important.
Des sortes d'incubateurs aussi, quelque chose.
Alors
comme
on
ça,
a aussi effectivement des incubateurs. Alors ça, c'est pas la fondation, c'est vraiment plus en lien avec le business. C'est des startups qu'on accompagne, mais souvent il y a des passerelles aussi effectivement avec des jeunes femmes qu'on accompagne dans les maisons digitales sur un premier volet, et qui ensuite sont prises en charge dans des formations un peu plus entrepreneuriales dans les Oranges Fab.
Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous évaluez à la Fondation les projets que vous mettez en place? Vous voyez, vous parlez d'insertion sociale. Pardon, je sais que ça fait pas très longtemps que vous êtes à la tête de la Fondation. Non, est-ce que des fois, des trucs, vous essayez, ça marche pas, d'accompagner des projets où ça marche, et du coup, on en met un peu plus?
Non, on a quelques mesures d'impact, mais qui pour moi, pour l'instant, sont pas significantes. Donc, c'est vrai qu'on a réorganisé un peu la Fondation. Là, on a refait des appels à projets. On va relancer un peu des mesures d'impact, effectivement, plus pour voir comment on peut améliorer ces projets et comment on peut accompagner l'accompagnement pour nos bénéficiaires.
Merci beaucoup, Françoise Cosson, d'être venue jusqu'à nous. C'est la fin de cette émission. Je rappelle, Françoise Cosson, que vous êtes directrice de la Fondation Orange. Merci beaucoup d'être venue jusqu'à nous. Et puis, tenez-nous au courant. On va suivre le prix Orange.
Avec plaisir.
Du livre En Afrique. Et continuez le débat, réagissez sur les réseaux sociaux. C'est pas un sujet qui a passionné les auditeurs, mais je pense qu'ils étaient très attentifs. On se donne rendez-vous demain, chers auditeurs, pour la libre antenne du journal des auditeurs. Inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur au 01 55 07 58 05. Restez à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1.